Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Duga.
Depuis que les matchs sont arrêtés en France, dans la deuxième heure de Tim Duga, après 19h, on se remémore des matchs marquants dans l'histoire du foot. On va revenir dans une seconde sur Marseille-Montpellier, la fameuse victoire 5 à 4 des Marseillais. Et pour une fois, on va donner la parole au Montpellierain. Pascal Baïs, défenseur à l'époque, sera notre invité. Vous entendrez ce moment à 19h30. Il y aura le blind test également à 18h45 pour terminer l'émission. Mais avant cela, on se replonge donc dans cette soirée d'août 98. Les Marseillais connaissent une première mi-temps cauchemardesque avant de s'imposer 5-4. On s'est remémoré ce match incroyable avec les acteurs de la rencontre, l'entraîneur de l'époque, coach Courbis, l'attaquant remplaçant au coup d'envoi Christophe Dugarry, mais également Franck Leboeuf et Julien Cazard. Alors, je vous emmène donc le 22 août 98. Voilà, les champions du monde 98 étaient sur l'été, la fin de cet été incroyable. Hein. Là, vous en avez fait des choses cet été-là, n'est-ce pas, Francky?
Ah ouais, ouais, c'était plutôt sympa. Ouais.
C'est ça. Et donc, la fin de l'été.
Du jet ski.
Ah, il y a eu beaucoup de jet ski, oui. Ça, c'est vrai, je me souviens.
Ouais, il y a eu une petite affaire.
Avec Fabien Barthez, non? C'était quoi l'histoire du jet ski?
Moi, j'ai souvenir. Il y avait l'affaire du jet ski, il y a eu l'affaire du bateau qui a explosé à notre bateau.
C'est pas quoi, ça, le bateau?
À Saint-Tropez. Non, c'était pas ça, Christophe?
C'était pas sorti.
J'étais pas, toi?
Je sais pas, non, j'étais pas. Non,
ça n'a pas été rendu public, ça, pas
Saint-Tropez. Il y avait, je crois, avec le présentateur Nagui, où il y avait eu un problème qui n'était pas du tout de leur faute, puisqu'ils ne. Pas eux qui pilotaient, ou on peut dire qui s'occupaient du bateau, du gros bateau. Donc, il y avait une petite histoire.
D'accord, très bien. Bon.
C'est vrai que nous, avec Jean-Louis, les accidents de hors-bord, on en a peu.
C'est
pas parce qu'on conduit bien. Hein.
Oui, c'est pas
en bord qu'un yacht.
Deux yachts en collision, on en a pas vu souvent, nous. Effectivement.
Une fois, on s'est fait entrechoquer avec des pédalos, mais c'est pas mortel.
Une fois, j'ai vu un bateau mouche ne pas passer un pont, c'est tout, quoi. Voilà, on va pas plus loin. Quoi.
C'est au max.
Bon,
au max,
on est donc le 22 août 98, c'est un match de Division 1 qui donc met aux prises le Marseille de coach Courbis et Christophe Dugarry au Montpellier de pas mal de joueurs sur lesquels on va revenir. C'est un match de Ligue 1 de début de saison au mois d'août. C'est la troisième journée, hein, il me semble, coach. Ouais, tu vas me confirmer ça.
Et Montpellier, tu viens de le dire, si on regarde la composition de l'équipe, Montpellier a aussi une belle équipe.
Exactement, je vais les donner les compos. Juste avant, on précise que, coach, il y a quelques jours, tu as revu ce match donc, qui a été diffusé chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. D'ailleurs, à la base, quand on a lancé ces débriefs de matchs historiques, on s'est dit Marseille-Montpellier, on s'est déjà raconté pas mal de fois. Ouais. On n'a pas besoin de le refaire. Mais après la diffusion de ce match, beaucoup d'auditeurs de Team Duguay nous ont dit il faut quand même le refaire, etc. Donc on va le refaire. Et donc, coach, tu l'as revu en intégralité?
Mais je ne l'avais pas revu, c'est-à-dire, oui, évidemment, j'avais revu le résumé, les buts, mais je n'avais pas revu en entier, j'avais jamais eu le temps. Et là, comme on avait le temps, j'ai dit tiens, je vais regarder un petit peu du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé déjà en première mi-temps pour qu'on puisse être 4-0 à la mi-temps? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'a fait Montpellier? Et après, voir un petit peu dans la deuxième mi-temps ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je me suis aperçu de certaines choses que j'avais pas vu. Par exemple, on fait un gros match dans la deuxième mi-temps. Des garçons comme Blondeau, Eric Roy, qu'on parle un petit peu moins que certains autres joueurs, je les ai vus énormes.
Ouais, ouais. Alors on y va sur les compos justement, t'as commencé à égrener certains noms. Donc Marseille, Porato est dans les buts, Blondeau, Blanc, Domoro, Galas pour la défense. Galas jouait latéral, donc j'imagine.
Gauche,
voilà. Au milieu de terrain, Daniel Bravo, Eric Roy, Jocelyn Gourvennec et le trio d'attaque, Robert Pires, Florian Maurice, Fabrizio Ravanelli. Et en face à Montpellier, donc, Bruno Martini dans les buts, Serezoum, Baïs, Sylvestre et Dos Santos derrière, Fugier, Sauzet, Rouvière et Laurent Robert, et devant Xavier Gravelaine et Bakayoko. Voilà pour l'équipe de Montpellier.
Gravelaine qui était chez nous l'année d'avant.
C'est ça. Et Bakayoko qui sera chez vous l'année d'après, non?
Voilà.
Dos Santos, il arrive pas longtemps après, je pense. Hein. Oui. Dos Santos, il est pas à Marseille après?
Oui, il est à Marseille, effectivement, sûr, hein. Après, quelques années après. Et donc, Dugas est remplaçant. Qu'est-ce qui s'est passé, Dugas?
Ah ben je sais pas, je devais pas être en forme, demande à Roland, je sais plus, j'avais dû faire une préparation, non mais c'était le troisième match peut-être, la Coupe du Monde, j'avais été blessé aussi après la Coupe du Monde, je sais plus, mais bon c'était des reprises aussi pour moi j'imagine, si c'était le troisième match alors que je m'étais claqué en Coupe du Monde, c'était peut-être ça aussi, je sais pas, je me rappelle pas, demande à Roland.
Tout simplement une gestion d'effectifs, ouais. On avait fait un recrutement à l'intersaison où on avait 6 joueurs importants pour 4 postes. C'était la troisième journée. Il y avait eu 2 journées avant, je crois qu'on balance et qu'on va gagner à Metz. Et donc je fais tourner. Porato, c'est son premier match au stade Vélodrome puisqu'il vient de signer à l'intersaison. Alors c'est vrai que c'est toujours les mêmes discussions. On avait eu l'occasion de discuter avec Dugas lors de la mise au vert la veille, puisqu'il m'avait demandé comment je voyais les choses. J'ai dit, tout simplement, c'était ma façon de communiquer. Tu n'es pas titulaire d'entrée, tu seras titulaire dans la deuxième partie du match. Voilà, c'est tout.
Le titulaire à la 50e, c'est énorme.
Et j'ai tenu parole, il a été titulaire dans la deuxième partie du match.
Merci. Qu'est-ce que tu vas rajouter à ça?
Il se marre du gars parce que tu l'as entendu plein de fois.
Non, mais j'ai entendu.
Sans plaisanter, c'est du gars qui l'a dit avant moi.
Oui, déconne parole, s'il te plaît.
En ce qui concerne la prudence de ma part, c'est aussi une certaine fragilité de Dugas, parce qu'il n'y a pas seulement les souvenirs de la Coupe du Monde.
Enfin, on dit les choses.
Il y a les souvenirs de la saison d'avant où on fait un super match à Toulouse et lui le premier. Et paf, une fois de plus, c'est ischio. Dugas, on plaisante, mais il avait quand même un gabarit sur le plan athlétique pas très courant. 1m90, très rapide, parce qu'on parle toujours de sa technique qui existe aussi, de son jeu de tête, mais on néglige cette vitesse de course qui est très très rare pour un gars d'1m90, et moi toujours l'inquiétude de le faire jouer un peu trop longtemps ou un peu trop souvent. Donc je ménageais par prudence, peut-être une prudence stupide, mais c'était la raison.
Et voilà, Dugas, tu vois.
Non, mais je savais aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait aussi de ça. Je me suis trop souvent blessé. Aussi, c'est vrai, aux ischios. J'avais un ischio, notamment droit, c'est assez fragile. Ouais.
Alors, parce que Dugas n'est pas là au coup d'envoi, le match se passe très mal donc pour Marseille. Hein. Puisque donc, on a l'impression que chaque attaque fait but.
Hein. On était tous claqués.
C'est ça. Le souvenir qu'on a, coach, c'est ça. Hein, toi qui as revu en intégralité, c'est qu'à chaque fois que Montpellier attaque, ça fait but. Hein. Sur le
bilan, excuse-moi de te couper. Oui, vas-y. La première mi-temps, je crois que Montpellier est dangereux 6 fois. Il marque 4 buts. Sur les 4 buts, il y a 2 fautes individuelles de Porto qui joue son premier match au stade Vélodrome.
Tu parles du but de Robert peut-être et le coup franc de Sauzé, voilà. Qui sont un peu pour Porto.
Voilà, donc, et là, c'est quand même difficile de trouver des solutions. Mais vas-y, continue.
Donc Bakayoko ouvre le score à la 15e. Ensuite, donc Laurent Robert, Franck Sauzé, ce fameux coup franc que personne ne touche et qui termine au fond. Un coup franc complètement excentré. Et après, en contre-attaque, Bakayoko, donc, on est à la 35e. Et là, il y a 4-0. Comment on fait dans ces cas-là?
4-0, déjà, on sort logiquement sous les sifflets. Bon, c'est même pas que tu es inquiet, tu as tout simplement honte. Et donc, je réfléchis un petit peu à ce que je vais pouvoir dire à la mi-temps. Et à la mi-temps, je me vois pas dire grand-chose, si ce n'est que on va faire le maximum pour gagner la deuxième mi-temps, pour pouvoir, on est qu'à la troisième journée. Et bon, on pourra, disons, réfléchir que la première mi-temps aura été un accident, qu'on aura l'occasion de réparer. Donc après, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute un petit truc là, puisque je dis, dans cette région, il y a un sport qui s'appelle la pétanque. Il y a des fois des équipes qui perdent 12-0 et qui gagnent 13-12, mais ce sont les équipes qui ne vont pas boire l'apéritif tout de suite. Ils jouent leur dernière chance avec la dernière boule, et des fois ça se termine par 13-12. Et c'est pour ça, bon, je ne veux pas tout anticiper, qu'à la fin du match, je ne fais pas de résumé, on arrive dans les vestiaires et je dis 13-12.
Ah, t'imagines, okay, que Dugas, bien. Pour le convaincre de faire un bon match, il ne faut pas lui parler de foot, il faut lui parler ou pétanque ou golf ou apéro. C'est terrible, ou apéro.
Tu rentres à quelle
heure de jeu?
Carottes sont vraiment cuites, qu'il n'y a plus d'espoir.
Et quand tu rentres, t'es content de rentrer ou
je suis content?
Qu'est-ce qu'il fait, Roland? Ça sert à quoi?
Ah non, mais je veux pas rentrer.
Ah ouais.
Ah mais je veux pas rentrer, ça c'est clair. Je suis en train de m'échauffer derrière le but. Il y a 2-3 fatigués qui gueulent dans les mégaphones, qui veulent leur casser les bagnoles, qui vient avec moi leur casser les bagnoles. Et alors là, les dons d'oiseaux qui circulent, les machins, les chèvres.
Ah ouais, t'entends tout ça là.
Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais rentrer, me retrouver dans ce truc 4-0. Non, je veux surtout pas. Et puis, il faut y aller quoi.
Alors, on retrouve dans le détail du coaching, effectivement, de coach Courbis. Donc, juste avant, Francky, t'as déjà pris 4-0 après 35 minutes?
J'avoue que non. J'ai morflé là, aussi par moi, mais là ça m'est arrivé moi de gagner 3-0 ou 4-0 à la mi-temps, et où tu te dis mais c'est bon, on arrête le match, qu'est-ce qu'on va courir encore, on aura un match dans 3 jours, c'est bon.
Ce qui est rare, c'est en plus à domicile.
Oui, en plus.
Et ça, ouais, non, je pense que c'est plutôt rare. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont connu ça.
Première décision.
Après, t'aurais dû signer au PSG.
Avant de parler à deuxième mi-temps, il y a aussi ce qui se passe à la mi-temps quand on se croise dans le couloir avec Loulou et Michel Mézi.
Alors effectivement, ça c'est une image qui a fait le tour des années après. C'est que donc tu le croises, Loulou Nicolin, et je sais plus ce qu'il te dit, mais en tout cas toi tu lui réponds attention qu'on gagne pas 5-4.
Mais c'est-à-dire que bon, ça me contrarie dans le sens que bon, vous le connaissez, les dictons, il vaut mieux faire envie que pitié. Et quand je sors des vestiaires, il y a une quinzaine de mètres, il y a Loulou et Michel qui sortent du vestiaire de Montpellier, je me mets à leur place, ils ont un grand sourire et tout, nous on a honte, et Loulou dès qu'il me voit, ben, par politesse, donc il s'arrête de sourire, pareil pour Michel Mézi, il me prend par le cou et il me console. Comme si le match était terminé, mais je me mets à sa place, il me console en me disant bon, mais ça va, c'est un accident, machin, etc. Et moi, ça m'énerve. Ça, je dis, qu'est-ce que tu me racontes? On va gagner 5-4. Mais j'y pense pas une seconde qu'on va gagner 5-4.
C'est juste pour lui répondre.
C'est le réflexe. Et il me dit, ne le dis pas en rigolant. Je dis, mais je le dis pas en rigolant. Et ça se passe comme ça, et chacun va sur son banc.
Et d'ailleurs, il te regarde avec, tu lui fais forte impression. Il dit, ah, lui, il en a entre les jambes, etc. Ça, c'est une belle réaction. Enfin, voilà, il est admiratif. C'est ça le mot de chercher aussi de cette réaction.
Je me rappelle avec son langage,
donc,
particulier. Il se croise avec Robert Louis Dreyfus et puis il fait le geste avec la main. Il dit, il a dû se faire une belle branlette, le président.
Ouais, très bien. Très bien. Et
Robert Louis Dreyfus, il sourit un petit peu gêné. Il dit,
tu m'étonnes. Bon, le coaching quand même, coach, tu vas pouvoir un peu nous expliquer pourquoi tu fais ça. À la mi-temps, donc, tu lances Titi Camara à la place de Gourvennec. Il faut rajouter un attaquant.
Disons que c'était l'une des habitudes qu'on avait, puisque c'était pour moi un joueur très intéressant et très intéressant aussi comme joker. Et je m'imagine jouer avec, on avait l'habitude de jouer avec 4 offensifs, ce qui était déjà pas mal, plus un latéral qui montait, plus Laurent Blanc qui sortait souvent avec le ballon. Donc je me dis, attends, si on veut gagner la deuxième mi-temps, je vais pas mettre 5 offensifs tout de suite. Je fais pas rentrer Dugas tout de suite. Bon, c'était un choix. Après, c'est même pas un exploit. Il y a un miracle qui se passe.
Si tu l'as dit, donc, titulaire de la dernière demi-heure, il n'allait pas rentrer avant.
Et donc, je me dis, je vais terminer le match, ça je le sais, à la mi-temps, avec deux numéros 9, Maurice et Fabrizio Ravanelli. Dugas, qui est meilleur à gauche qu'à droite, mais tant pis pour ce match-là, il jouera à droite. Titi Camara à gauche, c'est son bon côté aussi. Et Robert Pires derrière les deux numéro 9. Et un seul 6, Eric Roy. Donc, c'est inquiétant, mais de l'autre côté, Montpellier, qui a fait une première mi-temps exceptionnelle, mais la paye quand même en deuxième mi-temps. Ils ne sont pas capables de renouveler. Et nous, malgré ce, tu regarderas les images, et c'est là que j'ai vu des choses que je n'avais pas vues à l'époque. On se fait siffler, sous les insultes, on arrive quand même à ressortir le ballon depuis derrière, tac, 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 tranquillement. Et quand on marque ce but à 4-1, il y a une réaction, c'est Florian Maurice qui va au sprint chercher le ballon pour se dire, tiens, le match n'est pas terminé, alors qu'en tout début de deuxième mi-temps, on a même failli en prendre un cinquième.
Oui, d'ailleurs, après donc, ce premier but, Dugas, c'est toi qui mets le centre sur Florian Maurice. Oui, ouais. Et on a l'impression que tu es exactement dans l'état d'esprit dont tu nous parlais avant. Tu n'as pas envie de rentrer. Et après, bon, tu joues bien sûr, mais après le but, tu ne te dis pas, allez, c'est bon, on va gagner 5-4 là. Tu vois, tu es en plus en retenue, quoi.
Non, mais après, il y a aussi, je suis pas forcément content d'être remplaçant, d'être le troisième aussi à rentrer. Alors déjà, tu rentres à la mi-temps, tu te dis, allez, bon, pourquoi pas, là, je suis le troisième, je crois.
Le deuxième.
Voilà.
Daniel Bravo.
Voilà, et le troisième, c'est qui rentre après?
Il n'y en a pas, coach, l'a gardé pour plus tard, ce changement.
Ouais. Ouais. Et la vraie question, donc, moi, que j'ai,
je me dis, on me fait rentrer pour me faire rentrer, je me dis pas, on me fait rentrer pour changer quoi que ce soit. Donc, voilà, bon, les choses se passent bien sur le but que j'adresse à Florent Maurice. C'est un super ballon de Laurent Blanc dans la profondeur, où je crois que c'est Santos qui anticipe très très mal, il est pris dans la profondeur. Voilà, donc c'est pas très très compliqué, j'invente rien. Après, c'est sur deux coups de pied arrêtés. Je peux pas te dire que j'ai la rage quand je rentre et je me dis, on va y aller. Voilà, j'ai un peu de réussite aussi. Sur deux coups de pied arrêtés, je mets ma tête comme j'ai l'habitude de la mettre.
Il y en a une qui ressemble au but contre l'Afrique du Sud.
Voilà,
pourquoi t'as pas tiré la langue? Pourquoi t'as pas tiré la langue pour dire voilà
juste devant coach,
juste pour devant coach quoi.
Il faut que tu mentes un petit peu, Christophe. Il faut que tu crées un peu ta légende. Il faut que tu crées ta légende en faisant croire tranquille. Que toi, quand t'es rentré, tu croyais que t'avais confiance, tu savais que t'allais marquer autant de buts et que vous alliez gagner. C'est comme ça qu'on crée des légendes. Toi, tu t'es en train de dire non, je sais pas, j'ai mis un but, après j'en ai mis un deuxième. Ça sent pas, si tu veux, ça fait pas rêver.
Mais ouais, mais c'est pourtant la vérité quoi.
Mais c'est intéressant d'avoir ta vérité.
Les gens s'intéressent pas la vérité, mon pauvre ami. Ils veulent rêver.
Et puis je suis pas un acteur comme toi, mon Francky, je sais pas mentir. Moi.
T'as vu, Francky et Julien, ils sont pour le mensonge. Incroyable.
Non, pour faire rêver les gens.
Oui, avec le mensonge.
Le roman, c'est quelque chose, c'est pas forcément mentir.
Quand tu rentres plus belle. Du gars, quand tu rentrais de mise au vert, tu romançais un peu. Oui, le soir, on rééquilibrait la tactique, on travaillait entre nous. Tu disais pas, on est parti dans un bar à escort.
Non, ça n'arrivait pas.
Jamais, on joue aux cartes. On joue aux cartes.
Voilà. Tu romances.
Ça ne m'est jamais arrivé en 16 ans, la veille d'un match, d'avoir été dans un bar.
J'ai
Madar. Arrête avec Mickey Madar. J'ai pas passé ma vie avec Mickey Madar. Arrête avec Mickey Madar.
C'est pas ce qu'il dit.
Donc Maurice, à la 61e, je reprends le film du match parce que ça va être mieux. En tout cas, moins dangereux. Duga, donc tu fais passer le score à 4-2 donc sur un but sur coup franc. Et ensuite, donc sur corner à la 71e, là, coach, tu faisais référence à ce but, effectivement. C'est Titi Camara qui tire le corner. On a l'impression presque que c'est Laurent Blanc qui la prend, mais c'est bien toi, Duga, au premier poteau, là, comme tu sais faire. Là, tu gênes le gardien et après, hop, on se décale.
Si tu veux, des souvenirs que j'ai, quand on revient à 4-2, sincèrement, c'est encore loin d'être 4-4. Il faut encore marquer deux buts parce que l'objectif à 4-2, c'est d'essayer, pourquoi pas, de faire 4-4. Mais sincèrement, j'ai l'impression que ça devient un match de hand. Montpellier n'arrive plus à ressortir les ballons. Nous, on passe de droite à gauche, on s'affole pas, on construit, on obtient des coups de pied à arrêter des corners, et on est quand même pas seulement dangereux sur les 5 buts qu'on marque, on a 4 ou 5 occasions aussi qu'on aurait pu marquer, notamment deux têtes de Laurent Blanc, une occasion de Duga, un pénalty, disons, qui est limite avant qu'il y ait le pénalty de la victoire. Donc, à 4-2, on a l'impression qu'on va revenir à 4-4. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai du banc.
Il y a le 4-3, donc, de Duga sur corner. Ensuite, Éric Roy, la 84e, va égaliser. Alors, le but, si vous ne l'avez pas en tête, c'est le but de Laurent Blanc contre le Paraguay, quoi. C'est la même chose. Un centre, une remise de la tête de Ravanelli, et derrière, Éric Roy qui conclut.
Et en deuxième mi-temps, Montpellier, ils n'attaquent plus du tout, quoi. Enfin, je crois qu'ils ont une occasion, je crois qu'ils ont une occasion, mais je suis même plus sûr, mais ils sont.
Mais oui, en début de deuxième mi-temps, ils ont l'occasion du cinquième par Fugit.
Ah oui, c'est ça.
On posera la question à Pascal Baïs qui sera
là pour ça. Et là, Porato fait un beau sauvetage.
Ah, voilà, quand même. On lui reconnaît ça à Porato.
Ben oui. Oh, il a bien fonctionné à Marseille. Il a fait, bon là, c'est son premier match, c'est difficile, mais il a bien réussi à Marseille.
À Bologne, notamment, en demi de Coupe de l'UEFA, il fait un ou deux arrêts décisifs.
Et après, qui va à Monaco?
Ouais,
non, il vient de Monaco.
Il y retourne pas après? Si, je crois. Hein. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Effectivement,
de toute façon, demain, on fait la carrière de Porato. Donc on peut,
si tu veux, Julien.
Ouais. Mais moi, si on peut faire tout à chaque fois, si possible, l'OM. Bloqué sur l'OM, ça m'arrange, moi.
Et donc, à la 90e, donc, Robert Pires va obtenir un pénalty pour une faute de Cyril Serezoum. Et donc, Laurent Blanc, qui était le tireur de pénalty. Enfin, j'ai en tête Bologne, là où il le tire deux fois.
Ouais, tireur de pénalty et de coup franc aussi.
Ah ouais, aussi, d'accord, je m'en souvenais plus. Et donc là, Laurent Blanc marque donc le but du 5-4. Et là, là, c'est le grand vélodrome, hein. Et on a l'impression, c'est marrant dans la célébration, qu'en gros, il y a un peu de pardon envers les supporters, quoi. Enfin, voilà. Désolé d'avoir été aussi mauvais pendant une mi-temps et maintenant on peut profiter.
C'est vrai que les supporters ont été bons aussi.
Aux supporters qui sont restés. Parce qu'il y en a une partie, il y en a une partie qui sont justement partis, qui sont revenus quand ils sont arrivés à la voiture, qui ont dit, oh, qu'est-ce qu'il y a, un but, il y a un deuxième but, et il y en a qui sont revenus pour voir. De 4 à 2, on sait jamais, mais il reste encore 25 minutes plus les arrêts de jeu, tout est possible. Donc, il y a une partie du public qui est partie et revenue.
Des bons supporters, des bons, ça c'est bien ça.
Et Laurent Blanc, cette saison, donc, on le disait, tireur de coups de pied arrêté, qui est dans une des meilleures période de sa carrière à ce moment-là, selon vous, messieurs, du gars, coach.
Il fait une bonne saison. Il se retrouve dans la même
situation. Auxerre 96, c'est pas mal.
Il se retrouve dans la même situation de Dugas, puisque bon, il rentre en France pour faire une bonne saison, parce qu'Aimé Jacquet avait donné un petit peu certaines précisions, à savoir qu'il fallait, si possible, donc être titulaire à part entière, et si on peut être en France, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, l'année avec Aimé Jacquet avait été très agréable. On s'appelait 2-3 fois par mois. Il prenait un petit peu des nouvelles de Pires, Dugas et Laurent Blanc. C'était vraiment agréable de discuter. C'est le seul sélectionneur qui m'a téléphoné pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait
avec Domenech. T'a jamais appelé? Ah ben non.
Non, j'ai pas eu ce plaisir.
Ouais, c'est vrai que Aimé, il a jamais appelé Gullit.
Ouais. C'est pas possible, Francine.
Alors, il y avait Dugues. Il est obligé d'appeler tous les jours, Dugues. Le père qui doit appeler le fils.
Oui.
C'est obligé, non?
Bien sûr, bien sûr.
Sors, il s'en occupe bien.
Sors cette rancœur, mon Francky, c'est fou ça. Il t'a fait jouer quand même la finale.
Mais je parle de toi.
Oui, mais il lui a pas parlé avant, du gars. Ah, ouais, pas non, compte.
Je parle de toi. Ça. Je parle pas de Lolo, je parle de toi.
Mais non, tu parles de toi. Tu dis qu'il a pas appelé.
Il a jamais appelé Rugulit.
Il a appelé Rugulit. Non, mais parce qu'il a appelé Duc, parce que c'était son fils.
Il a appelé coach pour avoir des nouvelles de Blanc et du gars.
Non, il a appelé pour avoir des nouvelles de Dugas.
Ouais, c'est ça.
C'était Dugas, c'était son fils. Il a fait 30 ans pour avoir les nouvelles de son fils. On a dit dans d'autres émissions que c'était toi, t'étais le chouchou
de
Aimé.
D'accord, bien sûr.
Non, mais après, tu le transformes comme tu veux.
En même temps, Jean-Louis.
On l'a transformé comme tel.
Voilà.
Jean-Louis, il reste pas beaucoup de temps pour mettre quelques coups de rap à Dugas, donc c'est maintenant ou jamais. Hein.
Bah oui, bien sûr.
Il sera plus là, donc.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il reste quelques semaines encore. Alors, dans un instant, on va donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais sur ce match. Ce sont les Montpellierains. Comment ils nous expliquent ça, de mener 4-0 et de perdre finalement 5-4? Pascal Baïs avec nous dans un instant, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Dugas.
Dans le meilleur de Team Dugas, il y a bien sûr le meilleur du Blind Test, notre jeu qu'on a lancé depuis le début du confinement. Rendez-vous tout à l'heure, 19h45, pour entendre cette empoignade. Mais d'ici là, on termine notre débrief de Marseille-Montpellier 98 en donnant la parole au Montpellier. Hein. Pascal Baïs était l'invité de Christophe Dugarry, Franck Leboeuf, coach Courbis et Julien Cazard. On est en direct avec l'ancien défenseur montpelliérain Pascal Baïs. Bonsoir Pascal.
Salut Pascal.
Bonsoir.
Salut Pascal.
Salut Christophe, salut Roland, salut Francky.
Et ancien adjoint de coach Courbis, Pascal.
C'est ça.
Bah oui.
Ouais.
J'ai eu ce plaisir, ouais. J'espère que c'est réciproque.
Bah oui. On a passé de belles années. D'ailleurs, si le Montpellier Rouen est là maintenant, c'est en 2009. C'est grâce à Roland. Hein. On est remonté.
Disons que sans faire le faux modeste, je vous ai aidé à remonter. Allez. J'en profite de t'avoir. Il y a un truc que j'ai jamais eu l'occasion de et chaque fois j'oublie. Et pourtant, on a été 4 ans ensemble. À la mi-temps, est-ce qu'il est vrai que Xavier Gravelaine, qui venait de partir de. Oh, en plus de ça, on se met à sa place, hein. Ouais. Qui venait de partir de l'OM, ouais. Qui avait été transféré, qui a fait le tour du vestiaire pour vous embrasser, vous remercier du 4-0?
Ouais, c'est vrai, j'ai bien renseigné.
Alors,
dans les vestiaires, il y a quand même pas mal de joueurs.
Xav, à la mi-temps, il nous dit merci pour le cadeau. Quoi.
Ah ouais, c'est génial.
Remarque, à la mi-temps, en 93 de France-Bulgarie, il y avait Joe Dassin, l'Amérique.
Ouais.
C'était pas mal, il y a des...
Mais c'est vrai que Xav, à la mi-temps, il nous embrassait tous. Il disait merci les gars pour le cadeau. Voilà quoi.
Ah, coach, il se régale là, quand on leur raconte ça.
Et non, mais j'étais pas sûr que ce soit vrai. Donc, je n'osais pas le dire que si après c'est pas vrai, Xavier n'aurait pas été content. Alors que bon, on se taquine, il n'y a aucun problème.
Ouais, donc, non, mais.
Après, mais on se met à sa place, hein.
Ouais. Non, mais après, à la fin du match, on lui a dit, mais tu fermes ta gueule.
Voilà, voilà, non. Tu nous as porté la scoumoune.
Mais c'est vrai qu'il a fait ça.
Et alors, Pascal, vous vous rappelez de cette première période où tout vous réussit?
Ouais. Ouais, ouais.
Elle est énorme, la première mi-temps.
De mémoire, on doit attaquer 5 ou 6 fois et. On marque 5 buts, dont un annulé, hors-jeu, pas hors-jeu, et on marque 4 fois.
Voilà. Limite, celui qui
voilà,
est annulé
hors-jeu. Voilà, limite, voilà. C'est, et puis après, le match bascule à partir de la 62e ou 3e. Voilà, c'est à la mi-temps, Christophe rentre, et voilà, je crois que c'est lui qui fait marquer le premier but. Après, il a marqué les deux derrière. Ouais. C'est... voilà, en 8 minutes, voilà. Et
comme souvent, j'ai été déterminant dans le bon comme dans le mauvais sens.
Ouais, non, mais...
là, c'était bon.
Là, dans le bon, voilà. C'est, mais en 8 minutes, voilà, c'est.
Le pire, c'est que Pascal, après, c'est qu'il après, nous a avoué qu'il n'avait rien à foutre, qu'il ne voulait pas rentrer en plus.
Pascal, justement, à quel moment vous vous avez senti quand on est revenu, alors 4-1, 4-2, 4-3, où vous êtes dit, ouf, là ça pue, ils vont revenir ou ils vont peut-être gagner le match? À quel moment?
Non,
quand Dugas est rentré.
Pas à 4-1, mais à 4-2, 4-3. Après, j'ai le souvenir que chaque fois qu'il y avait un corner, chaque fois qu'il y avait un coup franc, un coup de pied arrêté sur le côté. Vous arriviez, nous on vous regardait, on reculait, on faisait que reculer, on se mettait dans le but. J'avais l'impression que vous faisiez tous 2 mètres et nous 1,50 m. Voilà, tous les coups de pied arrêtés, le stade à la mi-temps c'était un cimetière. Si on s'en souvient, tout le monde partait. À 4-2, 4-3, ils sont tous revenus et puis après ça a poussé et puis bon, il y a aussi. Je crois que Titi Camara était rentré aussi.
Ouais.
Cette bestiole là, voilà. Et donc voilà, vous nous avez usé. Et puis après c'est vrai qu'on tenait plus le ballon. Et autant on vous avait fait mal en première mi-temps sur des contres, et puis après en seconde mi-temps on a plus existé quoi. Ouais. En demi-heure. Et si le match continue 10 minutes de plus, on en prend encore 3 de plus quoi. Voilà.
À 4-3, vous vous dites c'est inéluctable, ils vont y arriver.
On le sent, eux le sentent qu'ils vont revenir, ils ont plus de courage, voilà, ils font plus mal, et nous on fait que reculer, et on sent qu'on est acculé, on sent que, voilà, on subit tout, voilà, et donc on sait que ça va se terminer mal pour nous, quoi.
Et quand t'es coach, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs à la fin du match? D'ailleurs, j'imagine que les joueurs et vous êtes tous abattus.
Bien joué les gars.
Non, mais comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe dans votre vestiaire?
Ben dans le vestiaire après c'est la désolation, il y a pas de mots, voilà, tout le monde le subit. À l'époque le coach c'est Jean-Louis. Jean-Louis Gasset, pardon. Et j'ai le souvenir que il fait rentrer Philippe Delaye. Philippe Delaye, en seconde mi-temps, en lui disant bon, tu nous tiens le ballon. Ouais. Et voilà. Et Philippe Delaye a juste touché 3 ballons dans le match.
Il en a perdu 4.
Et Jean-Louis lui dit bon, tu rentres, tu nous tiens le ballon. Voilà, donc après. Après on chambre, après on en rigole, mais sur le moment, dans les vestiaires, c'est la désolation.
Mais tu sais, on reparle souvent de la remontada du Barça et du PSG. On va dire les cadres, ils étaient où? Et là, Montpellier, c'est la même chose. Montpellier, il y avait quand même Franck Sauzet, il y avait quand même Sylvestre, oui. Martini dans les buts. Parce que voilà, il y a des cadres, que... il y a Gravelaine quand même de la bouteille aussi. Enfin, il y avait quand même des cadres, quoi.
Robert.
Robert, exact. Il y avait Laurent Robert, il y avait Bakayoko. Voilà, c'est. Mais il y avait Franck Sauzet, voilà, non, mais après on subit tout, on est en incapacité, en incapacité de réagir et de trouver, nous, sur le terrain, la solution.
Excusez-moi, Dugarry vient pas se comparer à Neymar, des fois, non, juste pour être sûr, là. Il s'est pas comparé à, je sais pas, la remontada.
T'as un peu fait ce que Neymar a fait sur la remontada, Dugarry.
C'est tiré par les cheveux, mais si tu veux, allez.
Ils ont fait les recherches dans toute l'histoire du football, je dis bien dans toute l'histoire du football. Il n'y a jamais eu ce scénario, que ce soit en club ou que ce soit en sélection. Un 4-0 mi-temps et un 5-4 de deuxième mi-temps, ça ne s'est jamais passé, sauf ce match-là.
En quoi ce match a eu des conséquences sur la suite de la saison? Peut-être aucune, hein, je ne sais pas, Pascal.
Pour nous, pas beaucoup, parce que...
c'est huitième.
On finit huitième, voilà, mais c'est l'année où Bordeaux donc finit champion de France sur le dernier match à Paris, c'est ça?
Oui, exactement.
Voilà, mais cette année-là, on va à Bordeaux, un match aller, pareil, on mène 1-0, Bordeaux touche pas le ballon et on perd 3-1, mais on fait une première mi-temps, une grosse première mi-temps. Après on tient pas le litre, mais en première mi-temps, j'ai le souvenir que Michel Pavon, on rentre dans le tunnel, il me dit mais c'est le Barça, voilà, il touchait pas le ballon et on menait 1-0.
Nous je crois que cette année-là, je sais pas ce que fait Bordeaux à Montpellier, moi je crois que cette année-là on gagne 1-0 à Montpellier.
Exact. Ouais, tout à fait. Vous gagnez 1-0 et c'est ça, vous gagnez 1-0. Ouais. Marseille gagne 1-0 à Montpellier.
Mais je me rappelle pas ce qu'a fait Bordeaux.
Bordeaux, j'ai pas le souvenir. Je sais pas si on fait nul ou on perd.
Alors, je crois que Bordeaux gagne 3-1.
À Bordeaux, Montpellier aussi.
Ah non, à Bordeaux, pardon.
Oui, à Bordeaux, 3-1,
Et à contrario, Roland, vous, ça lance votre saison ou...
Ben, c'est-à-dire, je crois qu'on est invaincu jusqu'à la 15e.
Et il y a un partout à Montpellier.
Bordeaux, on fait nul.
On perd à Lyon à la 15e journée, notre premier match. Et sincèrement, le soir de s'enrouler les mécaniques. Mais avec un petit peu de mon côté superstitieux, je dis c'est impossible qu'un match comme ça, qui est très rare, c'est impossible que ce match-là ne soit pas le match de l'année, parce qu'on a l'effectif pour. De l'année où on sera pas champion. Donc je pense, même si on est à la troisième journée, qu'on va être champion et qu'on se rappellera de ce match-là comme l'un des matchs du titre. Et malheureusement, il nous manque un point.
On fait une belle année quand même cette année. Enfin, moi, j'ai un souvenir, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs cette année à Marseille où on s'entend tous hyper bien, on se retrouve tous les midis pour bouffer ensemble, on joue aux cartes, à la pétanque, les mises au vert. On passe vraiment les entraînements, c'est juste super. Enfin, moi j'ai souvenir de cette année-là, même si on n'est pas champion et que la fin est terrible. Punaise, c'était quand même.
Qu'est-ce qui se passe à la fin? J'ai pas suivi.
Bah, coach, peut-être vous le racontez.
C'est quoi cette histoire? Vous n'êtes pas champion à la fin? Merde alors.
C'est pas la dernière journée que.
C'est l'avant-dernière.
Il y en a 4 ou 5 de regrets à avoir.
Notamment la défaite
pour
au
ce
parc.
Petit point qui nous manque. Tout simplement la qualification en quart de finale contre Parme. Bordeaux en prend 6 dans la tête contre Parme en quart de finale. Et ce soir-là, quand on regarde ça et qu'on sait que nous, on s'est qualifié, qu'on va jouer les demi-finales, on ne sait pas encore que ça va être compliqué à Bologne notamment.
À Bologne.
Je pense que le titre, il se joue aussi avec la non-qualification de Bordeaux contre Parme. Mais bon, c'est comme ça. Après, on va pas faire toute une liste. Je te donne rapidement un truc. On est à Auxerre, on mène 1-0 contre un bon Auxerre. Il y a pas la VAR, évidemment. Il y a un tir. Daniel Bravo, il est sur la ligne, il la prend en pleine poitrine. Le ballon même, il y a la trace. L'arbitre Duhamel qui ne peut pas nous voir et sans l'ombre d'un commentaire, et s'il nous écoute, je dis il peut pas nous voir, donc il n'a jamais pu nous voir.
C'est Duhamel, on lui fait une belle pub sur RMC depuis quelques jours là.
Il a toujours répété à des proches: Marseille, je peux pas les voir, mais c'est pas grave, chacun ses goûts. Et donc il nous expulse Daniel Bravo et pénalty. On termine à 10. Bon, et ça aussi, après, bon, que tu veux que je te dise.
Merci Pascal Weiss, ancien joueur de Montpellier.
Salut Pascal.
Et ancien adjoint.
Salut Pascal.
Rappelons quand même, ancien adjoint de coach Courbis, c'est un job à plein temps pour toutes les fois où coach est au téléphone pendant les entraînements. Il faut bien que quelqu'un gère. Donc bravo Pascal.
Merci.
À bientôt sur RMC. C'est vrai, tu gagnes, non?
Bah oui. Ah bah oui. Le téléphone portable, Roland, c'était son truc. Hein. T'as dû avoir des putains de notes de téléphone portable, Roland. Hein,
ah bah, à l'époque, ouh,
on envoyait ça à Robert Louis-Dreyfus. Allez, bah, il travaille, c'est du travail. Hein.
C'était le club qui payait.
Voilà. Voilà donc pour ce Marseille-Montpellier incroyable avec plein d'histoires dedans. C'était génial de se remémorer ce moment. On revient dans une seconde pour la fin du meilleur de Team Duga avec le blind test.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Le meilleur de Team Duga, c'est tous les soirs, le samedi et le dimanche, entre 18h et 20h, avant l'arrivée de Par ici la sortie sur RMC. C'est le blind test. Donc deux équipes, Julien Cazard, Franck Leboeuf ensemble, les humoristes, et Christophe Dugarry, aidé par Antoine Varnier, qui est avec nous. Bonsoir, salut Antoine.
Salut champion. Antoine, est-ce que tu peux nous jurer sur la tête?
Oui.
Non, t'as combien d'enfants? T'en as qu'un?
J'en ai deux.
T'en as deux?
J'ai rien vu.
Franchement, t'as rien vu?
J'ai rien vu.
Sur la tête des enfants.
Je préfère pas le blind test.
Il y a tellement de travail en avant.
Tu peux dire Antoine, tu peux dire les réponses directement sans le dire dans l'oreille.
Oui, voilà, bah, c'est ça. Coup, voilà. Ouais. Alors on y va, vous connaissez le principe, hein, une chanson, ça dégaine. Derrière, une question foot.
Oh là, je
pense qu'Antoine va dégainer.
Lady Gaga.
Bien joué. Oui, Duga.
Ah, bravo.
Et là, personne ne te souffle. C'est génial.
Non.
Ouais, je me méfie quand même.
Ou du moins, pas de Paris. Très bien. 1-0 donc.
Est-ce qu'il y a ta femme juste à côté de toi, Christophe?
Non, je vois pas.
D'accord, ok.
Lady Duga.
Poker Face, nom de la chanson. On cherche donc un joueur qui a eu des gros gains au poker.
Dorasso, carrière.
Neymar.
Non, aucun de ceux-là. Un joueur passé par Nice, Arles-Avignon, Monaco, Marseille et Bordeaux.
Non, Madar.
Pas Madar, pas Loco. Trois sélections en bleu.
Jean-Yeti.
Champion de France en Ligue 2 avec Sochaux, vous êtes nul. Finaliste de l'UEFA avec Marseille.
Sosé.
Non.
Myriam.
Qui a dit Myriam?
Mathias.
Oui, Mathias, bien joué. Mathias, bonsoir d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Ça part en vrille.
Mathias, tu es avec l'équipe de Julien et de Francky.
Il y a
Laurent également. Laurent, bonsoir.
Salut Laurent.
Tu es avec Francky et Duga. Voilà, oui, excusez-moi les gars, j'étais emporté par le fait qu'Antoine Varnier soit avec nous.
Il a gagné combien, Kamel Meriem?
Il a gagné 80 000 euros. Au poker.
Attends, mais Neymar, il a gagné 10 fois plus. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Mais j'ai pas choisi de trouver Neymar.
J'adore le
tu m'agresses, toi.
Il a le droit de demander et de contre Meriem.
Je demande ce que je veux.
Bah oui.
Julien, il veut donner une réponse et que ce soit la réponse que j'ai décidée.
Julien, détends-toi. On a égalisé.
Tu fais le malin. Pas trop malin.
Tu me fais pas peur.
Tu vas se taire l'alcoolique, là.
Ouais.
Allez, on y va, nouvelle chanson.
Ah, c'est Dr. Dre.
Mais oui, Antoine, il est là.
Ah, mais ça, c'est les trucs de John, ça.
Bon,
John, c'est les années 90.
Oui, c'est John.
Ah, bah, truc de John. Moi, j'ai arrêté la musique à partir de 90. Moi, je suis Julien Dre,
j'aurais trouvé.
Oui, j'ai arrêté le foot.
Dr. Dre, style Dre. Qui était surnommé le docteur? Un joueur.
Doc River Viali.
Manu Petit.
Non.
Manu Petit.
Non. Ah, Socrates.
Et oui, Francky, Docteur Socrates.
Je l'avais en plus.
Ah ouais.
Manu Petit. Ça fait deux partout, c'est un match magnifique.
Éventuellement le gynéco. Éventuellement,
il y a clairement l'équipe musique Antoine et Duga et l'équipe foot Julien. Nouvelle chanson, c'est pas facile.
Ah, pour Duga, c'est dur.
Ah, je sais ça.
On peut écouter sinon.
Comment?
Michael Moore.
Oui, Michael Moore. Bien joué, Antoine.
C'est Michael Moore, ça?
Moi, je connais Michael Moore. Allez. Pas Michael Moore.
Michael Moore, moi je connais celui qui fait les
docs. Ça fait 3-2 pour les musiciens du Gary Varnier.
Ouais.
Sorti en 2012, donnez-moi un des deux meilleurs buteurs cette année-là de D1. Il y en a deux.
2012
Non.
2012. Benzema encore? Non, déjà parti.
Un champion du monde? Non.
Un champion
du monde? Non.
Un champion du monde quoi?
2018.
Chamac.
Ah, Giroud.
Oui, Giroud, Antoine.
Ah oui, avec Montpellier.
Chamac, champion du monde 2018.
Ah bah tiens, Chamac, voilà un Duga en moins bien. Là, voilà, Chamac.
Très bien. 4-2. Les artistes, vous pouvez
tout à l'heure, il cherche un mec en moins bien que moi. Il est fou, ce type.
Allez, on y va.
Ah, c'est
Mika.
Oui, bien joué, Julien est un artiste aussi. Il est capable de trouver des chansons musicales. Bravo. Enfin, des questions musicales. 4 à 3.
Mickaël Madard. C'était ça.
Landreau.
C'était ça. C'était Mickaël Madard, non?
Bah, j'allais juste demander à un joueur qui est prénommé Mika.
Mickaël Madard.
Landreau.
4-4, on revient.
Ah, ils ont anticipé.
Oh, on est bon.
On va donc faire une dernière chanson.
Allez.
Nirvana.
Oui, Nirvana,
bien
sûr.
Bien joué.
C'était Laurent.
Bravo Laurent, ça fait 5-4. Dernière question foot, donc sortie en 91, qui est troisième de D1
Monaco, cette année-là.
Auxerre, Antoine.
Ah, bravo.
Là, c'est le décalage. Là, il est sur le décalage.
Victoire donc de l'équipe Duga.
Bravo.
Portée par Antoine. Et on embrasse celle qui est à côté de Dugas. Oui, Julien.
Lady Dugas.
Je reviens en studio bientôt parce que c'est trop la carotte de toi.
Et c'est le jeu, malheureusement.
Et je vais te faire te calmer un petit peu, toi. Parce que tu te racontes un peu.
Pourquoi on prend l'accent marseillais quand on a un petit
Parce que quand t'as vu notre violin, c'est plus impressionnant que dire je vais te taper.
T'as raison. Merci, Julien. Demain dans Team Dugas. Merci, Francky. Dugas, demain, 18h, retour de Team Dugas. Laurent, on t'envoie bien sûr un t-shirt RMC pour avoir gagné ce blind test. Voilà donc pour le meilleur de Team Dugas. On se retrouve soit demain pour se remémorer d'autres beaux moments de la semaine, avec notamment un débat sur Thierry Roland, le commentateur. Était-il le meilleur dans son rôle à l'époque? Ça a provoqué un débat assez sympa qu'on vous rediffusera demain. Sinon, rendez-vous lundi, 18h, en direct avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team. Dans une seconde, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC, 18h-20h, le meilleur de Team Dugas.